Chers amis, vous qui habitez la région, vous qui êtes de passage chez nous, peut-être suivez-vous les informations à la télévision, dans les journaux, peut-être avez-vous vu les images de cet orage très impressionnant qui s'est abattu sur la Suisse romande jeudi soir. On en a eu quelques restes dans la région, mais c'est surtout sur Genève qu'on a vu des arbres déracinés en pleine ville. C'est impressionnant. Le tronc d'un arbre, habituellement, c'est du solide. Hein. Mais quand la force en vient à le déraciner, c'est que même ses puissantes racines n'étaient plus assez solides, plus assez ancrées dans le sol. Et dans la nature comme dans nos vies, l'absence de racines ou la faiblesse de celles-ci peut s'avérer dramatique. Tout comme pour les arbres, nos racines à nous sont des stabilisateurs dans nos vies. Elles empêchent les glissements de terrain ou le déracinement des arbres. D'où l'importance de savoir où elles sont et d'en prendre soin de ces racines. À commencer par nos racines spirituelles, nos racines chrétiennes. Ici, notamment en Suisse, la croix blanche sur le drapeau rouge, ce n'est pas la croix rouge inversée. Hein. Ah non, c'est la croix chrétienne. Je vous le signale au passage, hein, si vous l'ignoriez encore. C'est le signe des racines chrétiennes qu'ont voulu inscrire nos fondateurs il y a 729 ans maintenant. Ça fait un bail. Et ils ont voulu inscrire cela jusque sur notre drapeau. C'est important, les drapeaux, vous savez. Et en général, ils ont une histoire. La connaître, c'est connaître nos racines. Petite conversation entendue dans un train en France, il y a quelques années de cela, entre deux jeunes qui étaient assis non loin de moi. Au fait, il y a combien d'étoiles sur le drapeau européen, tu sais, toi ? 12, je crois. Hein ? Il y en a autant que de pays de l'Union européenne, non ? Ah oui, mais attends, les pays de l'Union, ils sont plus que 12. On est combien maintenant ? 27, non ? Ah oui, t'as raison. Il y a 27 étoiles, alors ? Ben non, je crois pas. Il me semble bien qu'il y en a 12. Oui, mais alors pourquoi 12 ? Ben, sûrement parce que c'est joli. Ou alors comme un cadran de montre, il y a 12 séparations aussi. Ah ouais, peut-être. Vous, chers amis, vous venez de réentendre dans la première lecture le texte de l'Apocalypse qui parle d'une femme couronnée de 12 étoiles. Alors forcément, ça vous fait tilt. Enfin, j'espère que ça vous fait tilt. Mais ce n'était pas du tout le cas des deux jeunes voyageurs qui étaient dans le même wagon que moi et dont j'avais surpris la conversation. Et ils ont eu la mauvaise idée d'aller vérifier sur Internet. Attention à Internet, chers amis. Il y a le meilleur comme le pire. Hein. Mais c'est loin d'être une source fiable. C'est même l'un des lieux favoris de ceux qui veulent vous déraciner, vous priver du vrai sens de votre histoire. Notamment quand ça les arrange. Parce que là, si vous allez regarder sur Internet l'origine du drapeau européen, vous allez avoir une surprise. Vous allez sur le site officiel de l'Union européenne et on vous dit ceci, je cite, « Le cercle d'étoiles dorées représente la solidarité et l'harmonie entre les peuples. » C'est beau, mais c'est pas ça du tout. Là, l'arbre le plus solide, le plus imposant, il est à terre, voyez. Il n'y a plus de racines. Et il y a de plus en plus de gens, y compris dans les publications les plus officielles, qui peu à peu nous déracinent. Les 12 étoiles du drapeau européen, j'espère que je ne vous l'apprends pas, viennent d'abord du texte de l'Apocalypse que nous avons lu en première lecture ce soir. La femme vêtue de soleil, reine du ciel, d'où la couleur bleue, est couronnée de 12 étoiles, c'est la femme de l'Apocalypse. Et si vous allez voir l'histoire du drapeau européen dans des publications un peu plus sérieuses, vous verrez que ses fondateurs voulaient montrer les racines chrétiennes de l'Europe, mais tous les drapeaux à croix qu'ils ont proposés ont été refusés par un des membres. Du coup, on a eu l'idée des étoiles, un peu plus neutres. Il y en avait d'abord 15, parce qu'on pensait en mettre autant que d'États membres. Sur ce coup-là, mes deux jeunes n'étaient pas tout à fait en tort. Et puis on est revenu à 12 sous l'impulsion de Arsène Heitz, celui qui a dessiné le drapeau. Et il avouera plus tard qu'il y avait bien un lien avec Marie, avec ce texte parlant de la reine du ciel, la femme aux 12 étoiles de l'Apocalypse. Un symbole biblique, donc chrétien, mais un symbole relatif à Marie, et il l'a voulu ainsi, parce que Marie, on la trouve aussi dans le Coran. Et bien sûr, Marie était juive, tout comme son fils Jésus. Beau symbole de paix entre les religions qu'a voulu le fondateur de ce drapeau. La couleur s'imposait d'elle-même pour la reine du ciel, le bleu. Eh oui. Ah, l'importance de connaître ses racines, voyez-vous. Je vous rassure, on n'est pas mieux, nous, hein, les catholiques. On connaît souvent très très mal nos racines. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, j'en apprends tous les jours. Hein. La Bible, par exemple. Parce que nous, on est persuadés que la femme de l'Apocalypse, avec son vêtement de soleil, la lune sous les pieds, les 12 étoiles sur la tête, c'est Marie, vous êtes d'accord? D'ailleurs, pourquoi prendrait-on ce texte au jour de l'Assomption, sa fête, s'il ne s'agissait pas de Marie? Du coup, la plupart de nos statues de Marie ont 12 étoiles au-dessus de sa tête et une lune sous les pieds. On en a même fait de très belles hymnes, on aura l'occasion d'en chanter une tout à l'heure. Seulement, il n'est dit nulle part dans l'Apocalypse que cette mystérieuse femme est Marie. Et dans les textes d'aujourd'hui, un seul parle explicitement de Marie. C'est l'évangile de Luc qui nous raconte sa visite à Élisabeth alors qu'elle est enceinte et son merveilleux Magnificat. Alors vous allez me dire, oui, mais si on lit ces textes le 15 août, c'est pas pour rien. Et pour bien comprendre ce que nous fêtons chaque année à cette date, il faudrait reprendre tous les textes, mais dans l'ordre inverse. Vous allez voir la subtilité du choix des textes de cette fête que vous avez entendue. L'évangile de Luc, d'abord, qui parle d'une femme enceinte, dont on sait qu'elle va enfanter Jésus, le Messie. La seconde lecture, Paul, qui nous disait que ce Christ est mort pour être le premier des ressuscités, parce que le dernier ennemi que détruira le Christ, c'est la mort elle-même. Un jour avec lui, nous serons tous ressuscités. Et puis le psaume, qui nous parlait d'une femme qui se prosterne devant son Seigneur, une fille qui devient une femme en gloire. Et avec tout cela, on a l'évocation symbolique du parcours terrestre de Marie et de Jésus. La naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection et la fin de la vie terrestre de Marie avec son assomption, c'est-à-dire son entrée dans la gloire du ciel, elle qui est la première des ressuscités. Et puis alors, on revient à l'Apocalypse, en dernier. C'est d'ailleurs le dernier livre de nos Bibles, ce n'est certainement pas pour rien. Et on découvre cette femme vêtue de soleil. Le psaume nous parlait déjà d'une femme vêtue d'étoffe d'or, d'ailleurs. Et vous savez ce que l'on dit d'une femme enceinte. Tu rayonnes, tu es lumineuse, rayonnante. Or justement, la femme de l'Apocalypse est enceinte. Elle enfante un fils, le berger de toutes les nations, et puis l'enfant est enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert. Difficile de ne pas y voir l'histoire de Marie et de Jésus, bien sûr, mais ce n'est pas dit. Et on peut aller un peu plus loin, car la femme de l'Apocalypse, même si elle ressemble à Marie, peut aussi être vue comme l'image de notre humanité tout entière, qui enfante le Fils de l'homme. L'image de notre humanité que Dieu a épousée dans son Église. L'image de l'épouse, celle qui enfante le Fils de l'homme. Et la venue du Fils de l'homme, ce n'est pas la naissance du Christ à Bethléem, c'est son retour parmi nous, c'est sa deuxième naissance. La naissance du Fils de l'homme, c'est le moment où tous les habitants du monde, vous comme moi, nous deviendrons réellement humains. Sous-entendu, on n'est peut-être pas tout à fait complètement encore. Il y a encore du boulot. La naissance du Fils de l'homme, c'est la naissance de l'humanité, le jour où nous renaîtrons tous au ciel, le jour de la résurrection. Le 15 août, nous célébrons une naissance, chers amis, celle de Marie au ciel, la première en chemin, la première de cordée de notre humanité. Et nous célébrons l'annonce de cette même naissance pour nous, l'annonce de notre future naissance au ciel, l'annonce de notre vie éternelle. Nous sommes en chemin. Et nous sommes sur ce chemin en marche vers notre naissance en gloire, vers notre résurrection. Quand je dis que nous sommes en marche, n'y voyez aucune allusion politique si vous venez de notre grand voisin français. Hein. Pas de ça ici. Sur ce chemin, chers amis, et terminons avec cela, les arbres sont importants. Qui a déjà fait un pèlerinage le sait bien. Les arbres nous guident de loin, ils nous offrent l'ombre bienfaisante, l'abri contre la pluie. Leurs racines les font tenir debout très solidement. Les arbres sont importants sur notre chemin vers le ciel. Ne laissons pas notre paresse intellectuelle nous priver de nos racines spirituelles, chers amis. Elles sont tout aussi essentielles sur notre chemin vers le ciel. Ne laissons pas quelques scribouillards sur Internet nous faire oublier nos racines chrétiennes. Quand on n'a plus de racines, on s'écroule à la première tempête. Mais quand on les cultive, ces racines, alors on peut tenir, même au milieu de la tempête, et finir par vaincre la mort, comme Marie, et parvenir au ciel.